There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, pour ce nouvel épisode d'Actu DevOps. C'est déjà le quatrième épisode d'Actu DevOps et on va parler aujourd'hui des actualités de décembre 2020. Et ça fera bientôt, ça fait là 12 mois qu'on discute avec Erwan et Damir, et René nous a rejoints aujourd'hui. Donc, comme tu l'auras compris, je suis avec Damir. Bonjour Damir.
Bonjour.
Erwan. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Et René qui nous a rejoint. Bonjour René.
Bonjour.
Je pense qu'on discutera le mois prochain du retour que vous avez sur la première année. Et on vous a préparé une petite émission avec plein d'informations. Alors, la première information de René. René, tu vas nous parler de quelque chose qui va faire écho au dernier Actu DevOps. On avait déjà abordé ça la dernière fois, donc je te laisse la parole.
Oui, alors la dernière fois, Erwan, on avait évoqué le problème de sécurité qu'il y a eu chez Sopra Steria. Il y a eu un podcast qui a été fait chez If This Then Dev, donc qui est un podcast orienté développement. L'intervenant, c'est Olivier Dupuis. Et en fait, moi, j'ai vraiment adoré ce podcast. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais Olivier est super transparent sur ce qui leur est arrivé. Alors, je ne veux pas spoiler l'épisode, donc je vais essayer de ne pas trop en dire. Mais en gros, il y a eu... ils sont sur AWS. Il y a eu quelqu'un qui a récupéré leurs credentials, donc vous verrez dans l'épisode éventuellement comment, sachant que c'est assez impressionnant. Et ils ont eu une attaque assez massive qui leur ont détruit toute leur infrastructure, et ça aurait pu être même beaucoup plus grave que ça. Ils ont eu beaucoup de chance qu'il n'y ait pas leur backup qui soit détruit aussi. Et donc l'intervenant Olivier raconte vraiment comment ça s'est passé, la reconstruction de l'infrastructure, et puis les erreurs qu'ils ont pu faire, et ça de manière vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé ça super, parce que c'est vraiment super transparent. Puis, ça, je sais pas, ça a un côté un peu comme un roman, en fait, une histoire un peu... on vit un peu le truc, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ce podcast, et je trouve que c'est super, super intéressant, et puis de bonnes leçons à retenir sur la gestion de ces identifiants, la gestion des backups, et voilà, bonne pratique. Voilà, si vous voulez ajouter des choses, j'en dis pas forcément plus, et je laisse les auditeurs aller vraiment voir ce podcast qui est vraiment super.
J'ai pas écouté, mais ça me donne envie d'aller l'écouter. Après, comme tu dis, il faut pas oublier les règles d'hygiène, hein, les clés, tout ce qui est clé pour s'authentifier, etc., les AKSK sur AWS ou sur d'autres plateformes, faut les changer de préférence automatiquement très, très souvent, au moins tous les jours, voire tous les heures, tous les 4-5 heures selon votre contexte, en automatisant ça. Pas hésiter à mettre aussi des règles dans tout ce qui est workflow de travail. Je pense par exemple à quelque chose qui est très sous-estimé, qui me marche très bien, c'est les git hook avec les pré-commits, qui permettent de faire des tests un peu basiques, mais au moins de vérifier que quelqu'un n'a pas mis en clair certaines valeurs. C'est quelque chose que je recommande assez souvent. Il y a un article d'ailleurs qui explique très bien comment le mettre en place, que je pourrais mettre du coup dans les commentaires.
En fait, ouais, c'est... Alors, je veux pas le dire parce que ça gâche un peu, mais voilà, c'est vraiment un truc un peu... C'est une erreur faite par un des membres, une erreur qui a été faite par un des développeurs de l'équipe, et assez basique, et je pense que honnêtement, ça peut arriver à tout le monde. Et pareil, dans la manière dont c'est traité, donc le gars, bien sûr, il n'était pas très bien, vu l'erreur, sans en dire plus, bien sûr. Mais voilà, la gestion aussi, de ne pas blâmer le gars, je pense, de toute façon, comme le dit Olivier dans le podcast, le gars, il était suffisamment, je pense que ça lui a servi de leçon de voir ses collègues reconstruire toute l'infrastructure. Et voilà, je crois que la leçon, elle est acquise et il ne fera plus jamais l'erreur. Voilà, mais ça, voilà, ça montre que ça peut aller. Enfin, écoutez-le parce que ça montre que ça peut aller très très vite.
Ça me permet de rebondir. J'aborde justement dans mes cours et formations la culture de l'échec positif. Et aller en effet blâmer quelqu'un parce qu'il a fait une boulette, c'est pas une bonne chose pour l'équipe. Ça va initier une mauvaise ambiance. Et en plus, vous allez passer du temps à faire ça au lieu de passer du temps à essayer de trouver des meilleures façons de faire. Donc, une fois qu'on fait des boulettes, une fois qu'on a un échec, il faut l'accueillir et puis il faut se dire, bah, ok, on a fait un échec, bah, comment est-ce qu'on fait pour plus le refaire ? Et ça, pour moi, c'est une des... Comment dire ? D'état d'esprit DevOps qu'il faut avoir dans la vie de tous les jours professionnelle.
Oui, c'est finalement la culture du blame, elle est très contre-productive. Et je dirais même, si jamais demain, bah, imaginons quelqu'un fait, je sais pas, une erreur basique, il fait un commit avec un fichier, avec tous vos credentials en clair dedans, est-ce que c'est de la faute de la personne ? Oui et non, en soi, c'est plus de la faute du process, etc. Il n'y a pas eu de review, il y a eu de... Il n'y a pas eu de mécanisme de sécurité, la procédure n'était pas forcément claire, il y a eu aussi un problème organisationnel. Et pour que quelqu'un fasse une erreur, c'est que soit il y a quelque chose qui n'a pas été verrouillé à un moment, soit que la personne a peut-être été mal guidée, était peut-être trop en stress d'avoir plusieurs choses à faire en même temps. Donc c'est rarement en fait une erreur humaine, vraiment juste erreur, quoi. Souvent c'est lié à d'autres choses. Et comme le disait justement Christophe, il faut arriver à verrouiller, à vérifier et à mettre des contre-mesures pour éviter que ça arrive à nouveau.
J'ai pas écouté le podcast non plus, mais je trouve que c'est toujours hyper intéressant ce retour d'expérience hyper transparent sur ce genre de cas qui sont vraiment pas évidents, et ça me permet de rappeler un précédent retour d'expérience qu'on avait déjà évoqué, je sais plus trop quand, mais sur un talk qui a des gars qui ont eu affaire à la cyberattaque que TV5 Monde avait subi. Et pareil, c'est toujours enrichissant, sans blâmer ou quoi que ce soit, juste en expliquant ce qui s'est passé et ce qu'ils ont pu faire pour faire en sorte que ça ne se passe plus et tout. Enfin, bref, ce retour d'expérience, c'est toujours vraiment, vraiment hyper intéressant.
Je voulais juste dire voilà, que le podcast évoque aussi après les contre-mesures qu'ils ont mis en place. Donc oui, il y a vraiment l'aspect vive la crise, comment ça s'est passé et les erreurs qui ont été faites vraiment pendant la crise. Et après, comment ils ont essayé aussi d'y remédier. Mais vraiment super parce que voilà, il n'y a rien qui est... C'est très, très, très transparent, c'est super.
On vous met le lien en tout cas du podcast en description. Erwan, tu vas nous parler de mon grand ami, de ma société préférée au monde.
oui, je vais vous parler de la panne qu'il y a eu le 25 novembre. Donc le mercredi 25 novembre, autour de 16h, il y a plein de gens qui ont cru que Internet était cassé. Et en effet, parce qu'il y a tout un tas de services et de sites très populaires qui soit avaient un sacré OK, soit étaient totalement à chaise. Donc les services et sites, c'était genre Netflix, Flickr, Slack, Adobe ou Medium, par exemple. Et en fait, très vite, la source du problème a été ciblée. C'était lié au provider donc au hosteur de tous ces services, qui est donc Amazon AWS. Et le problème a été d'autant plus ciblé qu'il ne touchait que une certaine région d'AWS. C'était pas un problème mondial, mais une seule région, qui est la région US East One. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? A priori, dans la communication qui a été faite, on comprend que c'est un des services managés qui a eu un souci. Et le service en question, c'est Kinesis. Alors, moi, je ne le connaissais pas avant de lire tout ça. Mais Kinesis, c'est le service managé pour faire du data streaming, une sorte de traitement en temps réel de flux de données. Et donc, si on en croyait la page de statut d'AWS à ce moment-là, il n'y avait que ce service qui était KO. Bon, la vérité était tout autre, puisqu'en il y avait plus d'une vingtaine de services managés qui ont été impactés, dont les plus connus, genre Lambda, S3, IoT ou DynamoDB. Même si tous ces services ne dépendent pas forcément de Kinesis, y a eu un vrai effet domino. Et l'effet domino touchant même jusqu'à la page de statut d'AWS, et ce qui expliquait que cette dernière n'était pas aussi alarmante que prévu, et donc d'un problème qui pensait être relativement convenu, en fait, était beaucoup plus fat. Et alors là, forcément, manque de communication, problème important à grande échelle, etc. Internet s'est enflammé, Twitter s'est enflammé pour expliquer que Amazon ne savait pas héberger des choses ou quoi que ce soit. Donc Amazon a fait toute sa communication sur l'incident sur Twitter, vu qu'ils n'avaient plus vraiment d'autres canaux. Le souci a été maîtrisé, ou en tout cas a été mitigé relativement vite, et après il a été maîtrisé au bout de quelques heures. Et c'est le lendemain que les différents correctifs ont été appliqués partout, et que du coup on était sûr que tout était revenu à la normale. Et donc du coup, ce qui est intéressant dans ce genre de news, c'est de savoir que effectivement, même les plus gros et ceux qui ont les équipes les plus fat et les plus brillantes, peuvent échouer. Hein, ça arrive à tout le monde. Mais ce qui est aussi intéressant, et je pense que je vais laisser tout de suite la parole à Damien, parce que je sais que tu as fait un article sur le sujet, mais ce qui est rigolo, c'est de vraiment la réaction, on va dire, globale des gens autour du fait que Amazon puisse fail est vraiment hyper surprenante. Et du coup, Damien, je te laisse le mic pour expliquer plus en détail tout ça.
Ah, c'est gentil. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire effectivement sur ce sujet. C'est vrai que j'ai écrit un article dessus, je vous le mettrai aussi en lien, et il y a un collègue qui a écrit un article en parallèle de moi, les deux se complètent assez bien. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que US West One, du coup, c'est une des régions principales, dans le sens où elle héberge des services centraux, donc des services globaux, comme des parties d'IAM, etc. Donc il y a eu des perturbations sur d'autres régions par débordement, mais ça a été très limité en fait, ça a été beaucoup plus limité ce qui s'est passé sur les autres régions. Et pour le coup, effectivement, il y a eu un incident, donc ça prouve que personne n'est à l'abri, et ça, encore une fois, j'ai pas mal insisté dessus, on ne sera jamais à l'abri d'un incident, parce que par nature, un incident, ça se prévoit pas. On peut mettre des contre-mesures, on peut redonder des choses, on sera jamais parfait, il peut toujours arriver quelque chose, surtout quand les infras se complexifient, on peut pas tout prévoir, il peut avoir des effets un peu non prévus, des trucs qui découlent. Il y a des choses pour mitiger ou pour éviter que ça arrive souvent, mais on n'aura jamais une couverture de 100%. Beaucoup de gens ont craché un peu sur AWS en mode « c'est pas normal qu'il y ait une aussi grosse panne et tout ». Encore une fois, si c'est normal, ça arrive, il y a des incidents, c'est prévu entre guillemets, et c'est aussi aux architectes de prévoir ça. Moi, je suis architecte cloud et je fais de l'AWS. Quand un client me dit « j'ai besoin d'une grosse disponibilité, j'ai pas envie que mon service y crache pour une raison X ou Y », ça va être du multi-région, ça va être voire du multi-cloud si vraiment il y a des gros enjeux de disponibilité, mais en tout cas, il va y avoir une conception pour. Et même AWS vous le dit, et leur CTO le dit tout le temps, tout peut péter à un moment et tout pète en permanence. Donc pour le coup, il faut le prévoir et il faut du coup le gérer de votre côté. Il vous donne les outils et de plus en plus là-dessus, il travaille aussi pour s'améliorer et pouvoir faire facilement des choses sur plusieurs régions en même temps. C'était pas toujours facile, là il commence un peu à s'améliorer sur ce point-là. Donc là-dessus, c'est pas, non, il y a eu un peu de l'attaque gratuite, ce qui est un peu dommage. Même si moi je suis le premier à dire qu'AWS pour des questions de souveraineté, tout c'est pas toujours la meilleure solution, mais faut pas non plus cracher quand ça sert à rien, quoi. C'est un peu triste d'en arriver là. Mais en tout cas, je mettrai le lien de mon article où j'en parle un peu plus. Mais du coup, il y a eu des effets assez marrants, notamment, je pense à tout ce qui est objets connectés qui se sont retrouvés totalement hors service. Je pense notamment à des gens qui se sont retrouvés en dehors de chez eux. Sur ces choses-là, je pense qu'il ne faut pas aller over-ingénierer les choses. J'ai vu des aspirateurs qui n'aspiraient plus. Honnêtement, à un moment, faut être un peu réaliste. Si ton aspirateur il a besoin d'Internet pour aspirer, il y a un souci. y a un souci de conception, le truc devrait pouvoir au moins aspirer basiquement du coup pour fonctionner. Et j'ai pris un exemple dans mon article qui, à mon sens, est très révélateur. C'est que j'ai une voiture, en fait, qui est toute simple, une voiture à la con. J'ai une carte électronique pour l'ouvrir, pour pas avoir besoin d'utiliser des clés, mais j'ai quand même des clés en backup. Parce que le constructeur, il sait très bien que c'est de l'électronique, ça peut péter un jour, et que si ça pète, ça me ferait très chier en fait d'être bloqué. Et je comprends pas que pour des objets quotidiens aujourd'hui, comme des aspirateurs ou des serrures, on soit pas en mode, attends, prévois quand même un truc, si jamais il n'y a plus Internet ou quelque chose, qui a un fonctionnement dégradé, mais qui a un fonctionnement quand même. Ça, c'est ce qui m'a vraiment choqué au niveau de la conception en fait des services là. Et juste pour rajouter, je finis sur un truc, après je relaisse la parole, je vais pas trop spammer. Je mettrai le lien dans les commentaires, mais AWS a fait un retour sur ce qui s'est passé exactement. Pour être honnête, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ils ont fait un retour effectivement pour donner les informations.
Je l'ai lu un petit peu en diagonale et c'est à première vue plus ou moins un problème de paramétrage kernel. En gros, ils ont atteint le maximum de threads par process. Et ben voilà, du coup, un problème qui a... Enfin, une fois qu'on le connaît, je pense que c'est relativement basique, ça arrive, mais voilà, ça arrive à tout le monde.
Le défi était de localiser quand il y a de la pression, de se dire qu'il y a tout qui est en train de tomber. Et AWS, en fait, eux-mêmes utilisent leurs services pour héberger d'autres services. Donc du coup, c'est très vite un peu un sac de nœuds à dépiler. Ben, ils ont des personnes techniquement très expertes, mais du coup, je pense que ça doit être un moment intense, en fait.
Ouais, puis ce qu'il faut voir aussi, c'est le trafic qu'ils ont. Donc, ils ont eu des problématiques de remise en route, c'est-à-dire qu'ils pouvaient pas remettre tout d'un coup. Enfin voilà. Donc, de toute façon, c'est pas les premiers à qui ça arrive. Hein, c'est arrivé à d'autres providers. Il y a Cloudflare aussi qui a été touché dans l'été.
OVH a eu de grosses pannes historiquement aussi.
Il y a longtemps qu'il y a eu aussi des soucis assez, pour le coup qui étaient assez compliqués. Enfin, ils ont vraiment pas eu de chance. Voilà. Après, ça arrive même à ceux qui ont des très gros moyens. Donc, par rapport à ça, c'est clair que les organisations plus petites sont d'autant plus soumises à ce genre de problématiques, quoi.
Je suis assez d'accord avec vous. Et puis, de manière générale, ne pas accepter la panne de son hébergeur, finalement, c'est un vrai problème parce que c'est un peu, on repousse la panne sur notre hébergeur et puis on l'a choisi. Il doit pas tomber et c'est juste faire abstraction du fait que tout est faillible, y compris les machines, et que refuser la panne, c'est... Comment dire ? C'est ne pas faire son travail quelque part, parce que si on veut vraiment de la haute disponibilité, comme le disait Damir, c'est aux architectes des applications de se poser des questions. Et les fournisseurs cloud, ils sont là pour nous aider, mais ils sont pas là pour pallier à notre travail. Je trouve qu'il y a une sorte de... Comment dire ? De tout fournisseur confondu, hein. Je me souviens de la panne d'OVH de l'an dernier, je crois, où tout le monde crachait sur OVH parce que OVH n'était pas capable de faire tourner des trucs alors que Amazon, eux, ils y arrivaient, Azure, ils y arrivaient. Enfin, bref, on voit très bien qu'en fait, personne n'y arrive parce que les pannes, ça arrive, et surtout les grosses pannes. Et comme tout est interconnecté maintenant, on a de plus en plus, c'est de plus en plus visible en fait. Dès qu'il y a une panne un peu majeure, elle est visible. Par contre, les pannes mineures, on ne les voit plus forcément, puisqu'il y a des redondances, des trucs comme ça. Mais là où je voulais en venir, c'est en fait, il ne faut pas cracher sur Amazon pour les mauvaises raisons. Et ça, c'est typiquement une mauvaise raison. C'est quelque chose, on doit avoir conscience que ça arrive, et chez tous les fournisseurs, ça arrive. Par contre, suite à cette panne, on peut peut-être se poser des questions sur le monopole d'Amazon et les impacts finalement qu'une panne a sur Amazon. C'est peut-être plus ça qu'il faudrait adresser plutôt que de dire Amazon, ils n'y arrivent pas.
C'est ce que j'avais dit au final à la fin de mon article, quoi. C'est quand vous crachez sur quelque chose pour des raisons que vous n'aimez pas la société, etc., faut le faire intelligemment, sinon vous n'avez plus de crédibilité et votre cause non plus, entre guillemets, quoi. Pour ça, je me méfie notamment beaucoup des débats sur la souveraineté, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué au final et qui souvent part un peu dans des choses un peu des fois du dogme, en fait, où on dit ça pour dire ça. Donc je trouve ça un peu triste. Mais effectivement, mais je pense aussi qu'il y a un autre problème dans l'état d'esprit, c'est qu'aujourd'hui, les choses sont tellement, entre guillemets, vendues comme étant redondées, etc. On met tellement les dispos en avant et des dispos assez ouf qu'on a tendance à oublier des fois que ça faille. Et je pense que ces incidents-là, alors je vais choquer des gens, mais il faut que ça arrive de temps en temps, en fait. Il faut que ça arrive pour rappeler aux gens que, c'est pas magique. Le cloud est magique, pas magique, ton serveur n'est pas magique, rien n'est magique, ça peut péter. Et je pense à ça notamment, bah, sur tout ce qui est microservices et tout, je pense qu'il est très important de prévoir des modes de fonctionnement si les services dont ils sont dépendants ne fonctionnent pas. Un microservice, par définition, est dépendant de plein d'autres microservices. C'est important de ne pas juste crasher si un autre service ne répond pas, de potentiellement pouvoir exécuter sa fonction. Ou par exemple, je prends un exemple très con et j'exagère volontairement, mais si demain vous avez un microservice qui permet de lister, je ne sais pas, bah, la liste des podcasts qu'on a réalisés, et que l'API qui va interroger en fait, la base de données, elle est morte, bah, on ne va pas retourner une erreur. On va retourner, le résultat n'est pas disponible pour maintenant, ou des choses comme ça. Toujours prévoir des modes dégradés, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai des fois du mal à voir, aussi bien côté dev que côté ops, et pourtant c'est quelque chose qui est vital en fait.
Ouais, ça fait partie des bonnes pratiques applicatives, hein, normalement.
Oui, c'est ça. Mais à même niveau apps.
Je pense que ça fait même partie des toile factor apps, je suis pas sûr, mais voilà, faut bien penser, surtout en microservice, que on est hyper dépendant du réseau finalement. Que c'est censé marcher, mais que en fait, il y a des moments où ça fonctionne pas. Quoi. Et puis on en revient aussi à une autre chose, c'est. Je pense que ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier reste assez, assez un bon conseil, en fait.
Ouais, c'est pour ça qu'on en revient à des sujets d'architecture et pas de services, en fait. Amazon, ils fournissent des services managés sur lesquels ils s'engagent sur des SLA. Et puis si ça ne te convient pas, si tu veux plus, bah, c'est à toi de proposer une archi qui puisse encaisser le truc, quoi.
Des fois, ça peut aller assez loin, parce que moi, je me rappelle aussi d'une panne chez Dyn, il y a quelques années, où en fait, ben, pareil, plein de services avaient été impactés, c'était un problème de DNS, en fait. Et Dyn avait subi une attaque, ils prenaient un deny of service, et du coup, ben, en fait, il y avait plein de services non plus qui ne répondaient plus, parce que tout le monde s'appuyait sur Dyn.
Mais oui, mais après, dans tous les cas, en fait, je vais conclure ma vision là-dessus. C'est quand on se dit qu'il faut faire du multi-cloud, redonder de ça, il ne faut pas oublier une chose. Et c'est la raison numéro une pour laquelle ce n'est pas fait souvent, c'est le coût, en fait. C'est que c'est un coût qui est assez élevé. Moi, quand je développe quelque chose sur du multi-région, ça me demande beaucoup plus de travail au niveau conception et implémentation que sur une région. Et souvent, bah, le client, il n'a pas les moyens. Et la plupart des clients, on va pas non plus se mentir, tout le monde n'a pas besoin du truc overkill qui est redondé 30 fois, qui est à niveau militaire. La plupart des gens, ils ont juste besoin que leur business y tourne, que ça fonctionne sans avoir trop de maintenance et sans trop d'incidents. Si après, on leur dit, bah écoute, s'il y a un incident sur toute une région, c'est mort le temps que ça arrive quand même pas très souvent, la plupart des clients, ils vont dire, bah ok, bah, moi ça va, je préfère ça que payer deux fois le prix par mois parce que ça me coûtera moins cher. Donc il y a vraiment cette notion de s'adapter au prix, et c'est exactement la même notion au final qu'en sécurité. En sécurité, vous serez jamais parfait, vous allez avoir quelque chose où vous allez plus vous allez mettre de moyens, plus vous allez arriver à proche de la perfection sans jamais l'être, mais il y a un moment, bah, tout le monde n'a pas les moyens, ni n'a pas le besoin de ça, en fait. Il faut savoir s'adapter à ça. C'est aussi, bon, après, ça fait beaucoup partie de mon métier de consultant, donc c'est quelque chose que je pense qui est aujourd'hui primordial.
Mais en effet, il y a faut calculer le coût d'un incident majeur dans son exploit, et puis voir si ça vaut vraiment le coup de faire de la haute dispo pour un incident qui arriverait une fois par an, même majeur. Ça, c'est des questions que normalement le client doit se poser, ou que nous, en tant que consultant, on doit encourager le client à se poser, plutôt qu'ils nous disent « oui, je veux de la haute dispo partout ». Ah oui, mais ça va coûter cher, je m'en fous.
Faut déjà lui rappeler que la haute dispo n'est pas induite par le cloud.
Exactement.
Tu peux faire du cloud sans haute dispo. Tu peux tout à fait.
Tout à fait.
C'est comme tu peux faire du cloud avec que de l'EC2 sans service managé sur AWS, mais ça, on y reviendra un peu plus tard.
Et oui, dans le prochain épisode de Radio DevOps, je crois. Damir va nous parler d'Amazon Web Services encore, mais pour un autre sujet. Un sujet un peu plus européen qui nous touche d'un peu plus près.
Je pense qu'on aurait pu faire sponsoriser cet épisode par AWS. Pour le coup, vous avez tous entendu parler du projet GaiaX. Donc GaiaX qui est un projet de collaboration à l'échelle européenne pour créer, on va dire, et définir des normes de cloud souverain. Donc je préviens, je n'ai pas forcément relu toutes les déclarations qui ont été faites sur ce sujet, donc j'essaie juste de vous faire un petit rappel. Donc du coup, c'est une association entre plusieurs, notamment entreprises privées des différents pays et des entreprises externes à l'Europe, pour en fait définir un catalogue de services qui respectent, on va dire, certaines normes souveraines, donc elles sont hébergées en Europe, qui respectent la RGPD, des choses comme ça, et définir des nouvelles, tout simplement des normes et des choses comme ça, pour avoir quelque chose qui est interopérable, donc on puisse passer d'un cloud provider à l'autre. Et il y a une annonce qui a fait un peu trembler, on va dire, Internet, là aussi. Il faut dire qu'Internet tremble beaucoup cette semaine, ce mois-ci, surtout que AWS a déjà fait trembler avec son incident. Mais tout simplement, Gaïa a annoncé que AWS lui-même allait rejoindre le projet Gaia-X. Et on a entendu, du coup, tout le monde s'effarer, râler à des problèmes de souveraineté, etc. Donc, pour le coup, pour l'instant, on ne sait pas forcément encore exactement quel rôle ils vont prendre. Mais moi, je vais vous inviter à réfléchir un peu. C'est vrai que sur le papier, si on dit AWS va rejoindre Gaia-X pour gérer la souveraineté européenne, on pourrait se dire que un peu, c'est un move qui va tout simplement être fait pour un peu bousiller ce projet. Mais si on prend le temps un peu peut-être de réfléchir, d'essayer de changer un peu de position, d'essayer de prendre du recul et de voir ça sous un autre angle, je dirais déjà tout simplement que oui, c'était prévu dès le début que Gaia-X en fait ait des acteurs qui ne soient pas européens. Et à l'époque, ça avait choqué personne. Maintenant qu'AWS annonce, ça choque tout le monde. Donc là-dessus, déjà, je suis un peu interloqué. Ensuite, AWS, on ne sait pas encore leur rôle, tout simplement. Et je pense que là où c'est important, c'est simplement aux personnes qui vont gérer Gaia, donc aux personnes de l'administration européenne qui gère ce projet-là, qui vont devoir, à mon avis, équilibrer le débat pour qu'AWS ait un poids juste et pas un poids disproportionné. Ils ont clairement, et aujourd'hui, je pense que personne ne peut contredire ça, c'est eux qui ont le plus d'expérience dans le cloud public. Ils le font depuis le plus longtemps, ils ont été pionniers dessus, ils ont apporté beaucoup de choses. Qu'on l'aime ou pas, S3 est devenu un standard de facto. Aujourd'hui, je ne vois aucun cloud proposer du storage objet sans dire on est compatible avec le client S3, alors que ça n'a jamais été un standard. C'est juste que tout le monde utilise ça parce que AWS l'a créé. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc du coup, je pense qu'ils ont des choses à apporter, mais il faut absolument que les gestionnaires de Gaia équilibrent ça pour que personne n'ait un poids trop supérieur à l'autre. Et je ne pense pas que à AWS d'ailleurs, je pense à tous les acteurs. On pourrait s'imaginer que si Gaia était restée à une échelle beaucoup plus petite, une entreprise comme OVH aurait eu un poids au niveau européen qui aurait été beaucoup trop grosse comparé à d'autres entreprises. Et au final, ça aurait été un peu les décideurs. Et je pense que ce n'est pas ça l'intérêt de Gaia. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un gros travail d'équilibrage à faire de Gaia. Et on peut se dire qu'au final, AWS pourrait être utile pour la souveraineté et pourrait apporter quelque chose. Ensuite, je voudrais revenir sur un point, c'est que Gaia, il est aussi censé définir des standards. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde se définissait, on va faire nos standards dans notre coin tout seul entre nous et on va l'utiliser que entre nous. Mais un standard, s'il est utilisé dans un groupe de personnes ultra réduit et sélectionné à l'avance, c'est pas un standard en fait. On ne peut pas dire que c'est un standard, s'il n'est pas universel, on perd un des gros intérêts du standard. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est très important de travailler un minimum avec ces clients-là qui ont des choses à apporter, qui ont des standardisations, peut-être sur lesquelles ils vont pouvoir nous aider. Je pense juste que c'est important d'équilibrer le débat. Donc, à la place de râler entre guillemets en permanence à la souveraineté, etc., sur ce projet-là, je pense qu'il faudrait d'abord en fait attendre de voir ce qu'il en est exactement, quelle va être la participation d'AWS, et aussi voir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils veulent apporter, etc. Donc, pour le coup, voilà, je voulais un peu vous faire prendre un peu de perspective là-dessus et vous rappeler que un standard, c'est quelque chose qui doit être le plus universel possible, et que si on fait un standard juste entre nous, ça ne sera pas un standard du coup. Est-ce que vous avez des réactions là-dessus? Tiens, Christophe, qui, je sais, est attaché à la souveraineté.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Alors oui, comme je ne sais pas encore ce que ça implique, je ne vais pas pouvoir beaucoup en dire, puisque je suis totalement d'accord avec toi. Ça peut peut-être t'étonner, mais a priori... si Amazon Web Services reste dans un rôle de, finalement, éditeur de logiciel et de conseil. Ça ne pose aucun souci, puisque les opérateurs, eux, s'ils continuent à être européens, il n'y aura pas de problème pour moi. Après, si Amazon Web Services vient poser des data centers en Europe pour qu'ils soient utilisés pour Gaia-X, peut-être que là, on pourra se poser des questions. Mais bon, tant qu'on ne sait pas...
Ils ont déjà des data centers en Europe, ils en ont même beaucoup.
Oui, mais ils ne sont pas plugués sur Gaia-X, tu vois ce que je veux dire?
Bah, pour moi, Gaia-X, après, il n'y aura pas d'interconnexion spécifique. Il n'y aura pas un réseau Gaia-X, pour moi, si.
Mais j'ai cru comprendre qu'il y aurait probablement une API commune.
Oui, une API, mais ça ne force pas à être sur le même réseau. Chacun pourrait héberger son endpoint, peut-être.
Je croyais que c'était qu'un ensemble de normes, justement, et pas de réseau, entre guillemets, physique, entre les différents providers qui rejoignent le sujet.
Il y aura toujours des interconnexions entre les AS qui sont sur les DC, ce qui est bien normal, mais moi j'avais compris qu'il n'y aurait pas de choses vraiment spécifiques, quoi, qu'ils n'avaient pas tiré une backbone entre chaque data center de chaque gestionnaire, enfin, participant à Gaia. Quoi.
Oui, mais c'est pas ça que j'avais dans la tête en fait. Mais ça me rappelle un peu ce que Google a fait avec Anthos et OVH, où finalement OVH donc accueille Anthos, qui est un logiciel de Google, et le propose à ses clients, mais c'est OVH qui héberge et le logiciel est fourni par Google. Donc pour moi, c'est pas un gros souci en soi, puisque on reste encore avec des données qui sont localisées dans des entreprises qui sont françaises ou européennes. Et pour moi, c'est une bonne chose en fait, la coopération internationale. C'est là où justement on peut vraiment aller plus loin, et surtout si on met en place des projets open source et libres. Je sais qu'Amazon Web Services en met en place, et j'espère que Gaia-X commencera à produire des projets libres et des standards libres qu'on pourra réutiliser. On peut penser par exemple à la vidéo, on a le MP4, on a le MKV, ou ce genre de choses, qui sont des normes et des standards qui ont été définis. Bah, peut-être qu'on pourra aller vers ce genre de choses pour le cloud.
Je ne connais pas très très bien le sujet Gaia-X. La seule chose que j'ai cru comprendre, c'est que de toute manière, ce n'était pas sur la gouvernance que Amazon rentrait, c'était plus effectivement comme conseil, etc. Voilà, c'est la seule chose que j'ai cru comprendre, et voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je maîtrise pour le moment, je ne connais pas assez le sujet, donc je préfère m'abstenir.
Moi, j'ai pas grand chose à rajouter parce que j'avais compris la même chose que René. Pour moi, c'était juste à titre de consultation et récupérer, enfin, des retours d'expérience d'un des hébergeurs les plus importants du monde avec le plus d'XP. Donc, je pensais que c'était que là-dessus. Alors, j'avais pas compris que c'était encore un peu flou, la participation, mais enfin, le contenu de cette participation. Mais, et c'est peut-être pour ça, et c'est justement à cause de ce flou-là qu'il y a peut-être autant de gens qui brandissent des étendards. Dans l'immédiat, moi, je vois rien de choquant, quoi.
Bah, je pense que Gaia-X est encore flou pour beaucoup. Je pense que même chez Gaia-X, ils ne savent pas vraiment la direction finale que ça doit prendre. Donc, c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait, et j'ai fait cette news volontairement du côté, pas pro AWS, mais on va dire du côté espérance et positif, qui se dit que ça peut bien se passer. Si je peux juste me rebondir sur du coup Anthos qui est signé appartenant avec OVH. Donc du coup, pour revenir dessus, globalement, bah, comme Christophe le disait, Google, ils fournissent aussi une solution comme AWS, etc., pour héberger sa propre partie du cloud public qu'ils font, pour vous permettre, si vous avez des contraintes de sécurité, bah, de le contrôler vous-même, tout en bénéficiant de toutes les avancées qu'ils ont au niveau des services, etc. Et là, ils vont le proposer au travers d'OVH. Pour donner un petit mot dessus, je pense que c'est un move qui est assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, Google Cloud, on en a parlé dans un autre podcast, du coup, qui n'est pas Radio DevOps, mais ils sont un peu dans une position délicate, GCP, parce que globalement, ils ont très peu de clients, ils n'arrivent pas à se démarquer par rapport à AWS qui a l'expérience et par rapport à Azure qui a le niveau commerce et les contacts. Et du coup, aujourd'hui, c'est d'un peu récupérer du marché comme ils peuvent. Et je pense que ce partenariat pour eux, c'est pour récupérer tout ce qui est attaché à la souveraineté, etc. Et du coup, potentiellement avoir plus de possibilités de démarchage à ce niveau-là. Et OVH, qui est une entreprise qui, historiquement, ne va pas se cacher, aimait pas trop faire du logiciel, aimait bien faire de l'infra pur et dur, et ils sont restés là-dessus peut-être un peu trop longtemps, à mon sens. Eux, aujourd'hui, sont un peu en problématique où ils ont un gros problème au niveau du logiciel, où ils ont trop de retard. Et du coup, pour eux, c'est une façon en fait, de proposer à leurs clients quelque chose de moderne sans avoir besoin d'attendre non plus trop longtemps. Après, moi, je pense quand même que la situation risque d'être un peu un pari perdant-perdant pour OVH, qui va accueillir du coup des clients sur ce système-là. Et du coup, les clients vont peut-être bien aimer et on va leur proposer globalement en upgrade d'aller chez GCP puisque OVH va mettre du temps à rattraper le retard. Et d'un autre côté, en fait, du coup, ça va être une vitrine pour GCP et ça ne va pas forcément leur rapporter. Surtout que d'un point de vue souverain, si on est un peu... si on suit le raisonnement qui est souvent dit, il y a deux raisonnements, il y a les impôts et l'emploi. Donc globalement, la solution elle reste développée par Google, donc les emplois restent gérés par Google. Et le deuxième truc, ça va être tout simplement en fait... la souveraineté, les risques de piratage, etc. Si, honnêtement, si on n'a pas confiance d'aller sur GCP ou sur AWS avec tous les systèmes de sécurité qui sont en place, j'aurais pas plus confiance, entre guillemets, dans ce cas-là, sur une stack qui reste en fait une stack UBS, entre guillemets, quoi.
Je sais pas comment rebondir, à part le fait que, d'après ce que j'ai compris, il n'y a aucun lien logiciel entre ce que va proposer OVH avec Anthos et l'API GCP. C'est bien OVH qui va proposer sa propre API et sa propre implémentation d'Anthos, et Google va rester simplement en termes d'éditeur logiciel. Alors par contre, c'est vrai que sur ce point-là, ils sont restés un peu flous dans leur communication. Ils ont beaucoup parlé de logiciels libres et de logiciels open source, mais on n'en sait pas plus que ça. Est-ce qu'OVH va participer à Anthos? Ça reste dans le flou.
Après, en tout, ce que je veux dire, c'est que derrière, ça reste quand même s'ils réimplémentent une console ou autre chose, ça reste quand même une philosophie GCP, quoi.
Tout à fait. Ça reste quand même Google derrière.
C'est ça.
Et on a beaucoup parlé de conteneurs ces derniers temps sur Radio DevOps. Et du coup, René, tu vas nous parler de virtualisation.
Oui, avec deux projets. Donc, deux projets très proches qui s'appellent XCPNG et Xen Orchestra. Donc en fait, ces deux projets sont des projets open source développés par une communauté, mais en grande partie aussi par une société française qui s'appelle Vates et qui est grenobloise. C'est pour ça que j'en parle un petit peu, parce que je les connais un tout petit peu. Et en fait, qu'est-ce que le but de ces deux projets, en fait, c'est de fournir une solution clé en main de virtualisation. Un peu comme un VMware, mais complètement libre. Et en fait, ils ont une actuelle. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, et je pense qu'on fera peut-être avec Christophe un épisode, pas de Radio DevOps, mais un épisode un peu particulier pour discuter, parce que ces deux projets ont une histoire qui est vraiment intéressante dans la manière, et puis dont aussi comme la société a réussi à reprendre un peu la main dessus et à faire ce qu'ils ont fait. C'est assez intéressant, donc on fera ça peut-être, il y a beaucoup à dire. Mais voilà, pour résumer, ils ont une actualité là qui est assez... ils ont pas mal de choses, ils ont sorti pas mal de choses là récemment. Donc juste pour préciser, donc le projet XCPNG, c'est un fork amical de XCP qui est en fait... c'est Xen Cloud Platform qui est en fait un projet open source aussi, mais principalement drivé par Citrix. Mais il a un certain nombre de limitations, et donc la société Vates et la communauté ont décidé de faire un fork amical qui retire en fait ces limitations, et donc ça évolue ces deux projets évoluent en parallèle. Et Xen Orchestra, en fait, c'est la partie toute l'IHM, toute l'interface graphique pour piloter soit donc XCPNG et ou la solution de Citrix. Et donc la solution en fait XCPNG s'appuie sur Xen en tant qu'hyperviseur, et voilà, donc ça donne une petite idée de la solution que c'est. Donc c'est une alternative à du VMware ou à du Proxmox par exemple. Et donc l'actualité qu'ils ont en ce moment, c'est qu'ils ont ils ont sorti une LTS de leur version 8.2, donc avec du support, voilà. Et ils ont aussi fait un partenariat avec Ikula. Donc on peut aller chez Ikula par exemple et se louer des serveurs et donc ils vont être installés automatiquement avec la solution, et donc démarrer faire de la virtualisation au-dessus de cette solution. Et le dernier point, je pense que c'est pourquoi on en parle aussi ici, c'est qu'ils ont ils financent en fait quelqu'un pour faire un plugin Terraform. Donc aujourd'hui, ils ont aussi un plugin Terraform, et ça permet donc de faire donc de l'infra as code avec cette solution. Et voilà, donc je pense que Donc, c'est pourquoi j'évoque cette solution, c'est que je pense qu'elle est, elle est plutôt pas mal. Après, la solution, ils cherchent à la faire évoluer dans une direction qui est vraiment, alors vraiment essayer de vraiment, il y a une vraie volonté d'être le plus ouvert possible au niveau de la société. Et aussi, ils cherchent à viser, ils travaillent pas mal avec l'ANSI, par exemple, pour essayer de viser une solution qui va répondre à des contraintes de sécurité. Très importante. Voilà un petit peu ce que je voulais couvrir et puis faire un petit peu connaître cette solution. Et puis, ben, si ça intéresse des gens, ben, forcément, c'est disponible. On peut télécharger et essayer cette solution.
Moi, ça me renvoie à 10 ans en arrière quand je manageais mes serveurs avec où justement on installait plein de Xen dessus et on faisait des scripts un petit peu atroce pour essayer d'automatiser tout ça, et je pense que ce genre de solution nous aurait bien aidé à l'époque.
C'est de la virtualisation de machines, mais ce que j'arrive pas à voir dans les liens que tu nous as partagés, c'est s'il y a de la virtualisation d'autres briques comme le réseau ou les disques ou ce genre de choses, ou est-ce qu'on reste vraiment sur de la virtualisation compute ?
C'est une bonne question, je ne sais pas répondre complètement, mais c'est, pour moi c'est un équivalent de, enfin, il n'y a pas toutes les fonctions de VMware, voilà, on va se calmer, je pense. Mais voilà, c'est un équivalent de vCenter et de ce type d'application. Voilà. Et chose assez amusante aussi, ça m'a fait rire, c'est que, en fait, Citrix utilise ce produit aussi en interne. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est assez rigolo. Et en fait, oui, si j'ai des petites choses à ajouter quand même, je spoilie peut-être un peu, mais Xen reste une solution qui est très très utilisée. Elle reste quand même utilisée par AWS majoritairement. Ils ont fait d'autres choses, ils ont fait Nitro, etc. Mais il y a encore c'est encore beaucoup utilisé. Et c'est aussi beaucoup utilisé, je ne savais pas, par l'US Navy. Donc cette solution-là, elle a un certain nombre d'avantages, notamment pour la sécurité, etc. Mais voilà, il y a une des particularités, c'est qu'elle est quand même très très utilisée. Donc il y a une qualification en termes de qualité de logiciel qui est faite en partie par Citrix, qui est vraiment vraiment importante. C'est-à-dire qu'il y a des ressources mises en place pour sortir du logiciel avec des hauts standards de qualité. Et en gros, en fait, le projet XCPNG fork. En fait, ils sont au-dessus des, enfin, ils sont sur les épaules des géants entre guillemets. Ils forquent en fait cette partie-là. Et ça, c'est possible en grande partie parce que le projet à l'origine, il est en GPL. Et donc, ils améliorent en fait certaines parties du logiciel. Mais voilà, ça évolue et ça reste amical, ça évolue en parallèle. Et j'ai trouvé ça, enfin, je trouve ça assez intéressant en fait.
Mais du coup, pour moi, c'est plus un concurrent, entre guillemets, à KVM ou des choses comme ça, que des choses comme VMware. Parce que c'est vrai que, bon, après, là, je connais pas la solution, mais de ce que j'entends, je pense pas que ça va faire. Bon, en fait, VMware était très apprécié et est encore toujours très apprécié dans les entreprises pour en avoir fait pendant assez longtemps. Surtout parce que ça t'offre un écosystème complet qui est cohérent et qui est assez rapide et facile à mettre en place. Je prends l'exemple, tu montes dans ton cluster avec 3-4 ESXi, tu mets ton vCenter, automatiquement, franchement, en même pas une après-midi, tu as tout un cluster qui est automatisé avec des bascules automatisées, de la redondance à chaud, des bascules à chaud, des choses comme ça. Donc c'est assez facile, entre guillemets, il incorpore vraiment plein de fonctionnalités comme ça. On peut facilement plugger des backups et d'autres choses. Donc pour moi, quand on parle VMware, j'ai tendance à plus voir toute la stack, donc je pense que là, c'est plus un équivalent juste de l'ESXi, qui est un des produits de VMware, que toute la stack VMware, qui est, elle, assez complexe pour le coup.
Ben, en fait, ça va un peu plus loin. En fait, donc je reprends un petit peu. L'hyperviseur, c'est Xen, mais par contre, la solution XCPNG, c'est vraiment toute une distribution qui est qualifiée, qui est avec un projet libre, qui, en gros, c'est ton ESXi, quoi. Tu mets ta galette ta clé USB sur ton serveur et ça t'installe la solution. Et la partie graphique qui est normalement faite, moi je le vois comme ça, par le vCenter côté VMware, là pour le coup c'est Xen Orchestra qui fait cette partie là pour schématiser. Je ne suis peut-être pas forcément exactement ça, mais voilà, c'est vraiment une solution de virtualisation complète.
Je connais pas après côté Xen, honnêtement. Moi j'avais fait du KVM à l'époque, j'ai pas du tout fait de Xen, mais parce que du coup, c'était pas une techno qui était utilisée dans ma boîte à l'époque, mais moi, VMware, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, notamment de gestion de cluster et de choses comme ça, qui sont le vrai intérêt en vrai.
Ouais, tu retrouves ça sur Xen aussi. Hein. Je pense que c'est moins populaire sur les gens qui s'intéressent peut-être moins à la virtualisation, mais tu retrouves le même type d'écosystème. Et justement, les outils que Citroën, ça manquait vraiment de choses abouties là-dessus. Alors moi, je repense à mon expérience il y a très longtemps, mais j'ai pas trop suivi ce qui se passait dessus. Mais j'imagine que du coup, si ce genre de projet commence à émerger et à être suivi de façon sérieuse, c'est justement parce qu'il manquait cette brique-là, un écosystème qui est déjà hyper riche. Et j'espère que ça permettra de gagner plus de parts, parce que Xen, c'est solide. Quoi.
Je ne dis pas que c'est pas solide et qu'il n'y a pas les autres fonctionnalités. Ce que j'ai cherché juste à comprendre globalement, c'est à quelle couche, en fait, globalement, ça correspond ce produit-là. Parce qu'il y a genre plusieurs couches, tu as la partie virtualisation, tu as la partie du coup gestion du réseau, virtualisation des autres ressources, tu as la partie interconnexion, tu auras plusieurs parties. Et j'essaie juste de comprendre ça, parce que je ne connais pas du tout honnêtement le produit. J'avais fait un tout petit peu comment ça s'appelle la solution de virtualisation applicative qui utilise Xen
Citrix, le bureau distant.
Ouais, j'ai utilisé Citrix et ceux qui l'utilisent, je vous plains, hein, je suis désolé pour vous. Mais pour le coup, c'est la seule fois où je l'ai un peu utilisé, quoi.
En fait, cette solution, elle est. Enfin, juste pour rajouter deux choses. En fait, il y a, par exemple, de la migration de VMHO. Il y a la solution embarque un système pour faire des backups aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Oui, en fait, Citrix a un petit peu. Enfin, je sais pas comment dire. Ils ont vraiment développé ce côté bureau à distance. Et ils ont un peu laissé la partie virtualisation. Ils n'ont pas voulu trop aller se battre contre VMware. C'est aussi pour ça qu'on en entend moins parler. Et en plus, il y a un deuxième biais, je pense, c'est que en France, on est très, c'est très bizarre, mais quand on regarde la répartition du marché, c'est VMware à quasi 95%. Il y a très peu de place pour les concurrents. Ce qui est, donc je discutais avec Olivier Lambert, qui est le CEO de Vates, il me disait, c'est moins vrai à l'étranger, c'est beaucoup plus le marché est beaucoup plus, on va dire, segmenté, il y a plus de concurrents en Allemagne ou aux US, etc. Voilà, il y a des gros providers, je crois que Rackspace fait partie des providers qui utilisent aussi ces solutions. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, ces clients sont plus souvent à l'étranger qu'en France.
Je vais reprendre la parole, parce que je vois leur tourner, et du coup, il nous reste encore une news à aborder. Donc moi je vais vous parler de Ansible. Ansible qui est un outil que j'adore, et aujourd'hui vous n'êtes pas censé l'ignorer, mais on est sur Ansible 2.10. Et normalement la prochaine version aurait dû être la 2.11. Je dis aurait dû être car Red Hat passe Ansible à une gestion sémantique des versions. Donc la prochaine version de Ansible sera la version 3.0.0. En fait, c'est la simplification qu'avait entamé Red Hat avec les collections depuis la 2.9. Alors pour mémoire, les collections, c'est un nouveau format de distribution qui permet en fait de sortir d'Ansible tout un tas de modules qui en fait ralentissaient la sortie des versions. Puisqu'on avait des cycles de versions qui étaient très très longs et Red Hat en fait voulait améliorer et accélérer ce cycle de versions. Donc l'an dernier, ils nous ont expliqué qu'ils voulaient justement accélérer tout ça, et c'est pour ça qu'ils ont sorti du cœur d'Ansible tout un tas de choses annexes, justement, qui ralentissaient ces releases. Et c'est comme ça que sont nées les collections, qui sont maintenant à la charge de la communauté dans un dépôt qui n'est plus le dépôt Ansible. Et donc, en fait, Red Hat espère pouvoir sortir des versions majeures tous les 3-4 mois, avec des incompatibilités possibles. Alors, je vous laisse imaginer des incompatibilités tous les 3-4 mois si vous suivez vraiment les versions d'Ansible. Il va peut-être falloir ne plus suivre tout un tas de versions et fixer les versions pour vos projets. Si vous ne le faites pas, faites-le, c'est bien. Et donc, Ansible 3 est annoncé pour février 2021. Et bien sûr, Ansible 4 est annoncé pour plus tard, mais nous en parlerons une autre fois. Alors, quels sont vos avis là-dessus? Parce que je sais qu'on est beaucoup à utiliser Ansible parmi nous.
Allez, je vais prendre la parole. C'est clairement pas le truc que j'utilise le plus. Je fais beaucoup plus de Terraform techniquement que d'Ansible. Mais pour le coup, bah oui, c'est toujours les changements de versionning. On va voir ce que ça va donner à terme et si ça va être plus facile à suivre ou pas concrètement. Parce qu'en vrai, souvent, ça dépend de l'utilisation, comment ça va être fait, etc. Pour après, bah, la mise à niveau, entre guillemets, de ces différentes versions avec les breaking changes, faut voir, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la code base, ça dépend de l'interaction qu'on a avec le système. Je sais très bien qu'il y a des projets sur lesquels on ne retourne pas souvent dessus, et c'est des projets pas legacy, mais qui ont tendance à juste évoluer, qui sont en une phase de run avec très peu de GCC. Je pense que ces projets-là, il n'y aura pas de nécessité à part besoin spécifique de les upgrade. Et après, je pense que ça va être géré comme ça. Les cycles de vie, ça va être comme le développement, en fait. Ça va être juste qu'on va avoir un cycle de vie où bah, là, demain, je veux popper un nouveau service. Bah, je vais faire mon petit Ansible qui va bien avec la dernière version. Une fois que je l'ai terminé, bah, je le mets dans mon repo. Et si j'ai besoin d'y retoucher, bah, tant qu'il n'y a pas de problème de sécurité, je vais le laisser comme ça. Il n'y aura pas de souci de sécurité, je pense. Ce sera surtout de la syntaxe. Je le laisserai comme ça et j'upgraderai au besoin, en fait. Ça va être juste ça. C'est un changement qui va être au niveau organisationnel, plus les gestions du legacy et du code source, que réellement un changement, je pense, qui va changer la vie de tout le monde. Moi, c'est mon avis. Après, on va dire, j'ai pas fait assez d'Ansible pour voir s'il va y avoir d'autres conséquences beaucoup plus délicates et imprévues.
Alors moi, j'utilise pas mal Ansible, même beaucoup. Et j'ai des clients qui sont assez en retard, en fait. Voilà, donc on était, il y a pas si longtemps, on était encore en version 2.1. Donc j'ai bien dit 2.1. Ils sont passés en 2.7. Ouh. Ok, donc la 2.7 est déjà out of support. Hein. Enfin voilà. Par contre, alors ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'exercice, c'est quand même qu'ils avaient vraiment fait un gros effort justement pour pas que ce soit disruptif. Et du coup, la migration, elle s'est passée, je vais pas dire sans souci. On a eu des petites retouches, mais vraiment c'était mineur. Et là, du coup, entendre qu'il va y avoir des choses disruptives, ouais, ça, bon, on verra.
Il y a déjà eu des surprises récentes. Hein, alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est entre la 2.9.11 et 2.9.12. Il y avait genre un espèce de comportement par défaut quand tu créais un fichier où les permissions n'étaient plus les mêmes. Au moment où ceux qui gardaient leur truc toujours à jour, ils ont eu quelques surprises en faisant certains déploiements. Moi, j'en ai été victime en tout cas. Et donc du coup, mettez toujours, forcez les permissions partout et les owners pour pas avoir de surprise. Mais après, c'est hyper délicat. Hein, les mises à jour de, enfin le cycle de release d'Ansible, il est hyper complexe parce que aujourd'hui, c'est devenu un projet sur lequel la communauté a tellement développé de choses autour qu'il y a toujours, enfin, je ne sais pas qui sont les release managers d'Ansible, mais ils doivent avoir les fesses qui font bravo à chaque fois. Quoi. Parce qu'il faut vraiment s'assurer de ne pas tout péter. Il y a énormément de choses qui ne sont pas, même dans les plugins officiels, mais qui sont utilisées de façon assez massive. J'aime beaucoup Ansible, mais... tout l'écosystème, tout le contexte fait que je trouve que c'est toujours le bordel. D'ailleurs, il suffit de voir les modules, comment ils sont développés. Même s'il y a des guidelines, il y a énormément de choses qui se retrouvent dans les modules officiels qui ne respectent pas du tout les guidelines.
Ça me permet de rebondir sur les modules, justement. C'est bien parce que tu évoques tout ça qu'ils ont voulu sortir les modules et donc ils ont créé les collections. Ce qui va permettre de sortir plein de modules d'Ansible et donc d'avoir un produit plus léger et plus facile à maintenir aussi. Alors, moi, justement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce que vu qu'on va avoir des versions majeures sur lesquelles il peut y avoir des changements, enfin des non-rétrocompatibilités, et du coup, la non-rétrocompatibilité, eh ben, on va pouvoir la prévoir, parce que là, il fallait aller lire les release notes pour voir s'il y avait des rétrocompatibilités.
Il faut toujours lire les release notes, on le fait toujours.
Ouais, je ne suis pas d'accord avec cet argument.
Non, mais on l'a toujours fait.
Tu peux maintenant faire une mise à jour mineure et on voit la mise à jour majeure te dire « Bon, bah alors je ne vais pas le faire tout de suite, je vais aller voir ce que ça implique. » Et puis voilà. C'est un peu le souci que j'ai avec Terraform, où à chaque fois, à chaque nouvelle version, maintenant je vais aller voir ce qui se passe, parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais du coup, la gestion des versions sémantiques, je l'aime bien. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
Bon, après Terraform, les patchs, généralement les patch notes sont assez concis et assez complets là-dessus. Moi, j'ai jamais eu de problème parce que j'ai toujours été habitué, on va dire, à lire les patch notes quand je mets une mise à jour ou quelque chose. Donc, généralement, ils sont assez bien faits pour que tu comprennes rapidement ce qui va changer ta vie, quoi.
Après, c'est comme tout. Enfin, pareil pour Terraform, je me souviens plus, il y avait une montée de version qui était un peu pénible où il fallait refaire.
La 12.
La 12. C'est celle-là, voilà.
Ah, la fameuse.
La 0.12.
Qui est pénible, mais si tu passes de la 12 à la 13, enfin 0.13, la dernière, c'est ça. Moi, en tout cas, je me souviens que j'avais fait le move pour profiter des boucles forts, etc. Et j'ai pas eu spécialement de soucis, quoi.
Bon, je crois qu'on va clôturer là notre épisode, puisque ça fait presque une heure qu'on discute. Écoutez, je vous remercie à tous les trois. Et je vous dis à très bientôt sur le forum des Compagnons. Et si toi-même qui nous écoutes, tu n'es pas encore membre des Compagnons du DevOps, sache qu'il y a un forum sur lequel on discute pas mal, y compris de ce genre de choses. Et à chaque nouvel épisode, ça discute beaucoup aussi au sein des Compagnons. Donc, moi, je te dis à très bientôt et je vais vous laisser le mot de la fin. Je vais commencer par René.
Eh ben, merci de nous avoir écoutés. J'espère que c'était intéressant. Et au prochain podcast.
Oui, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur l'actualité. Et le dernier mot sera alligator.
C'est pareil, c'était un plaisir d'échanger sur toutes ces actualités avec beaucoup de dédicaces à AWS qu'on adore. Et du coup, le mot de la fin sera lisez bien sûr toujours les patch notes. C'est comme les contrats et les CGU, on doit les lire tout le temps et on les lit tout le temps.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.